de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, mature et prêt à toute bonne œuvre. La vérité et l'autorité du croyant se trouvent dans les Écritures. Il faut que je les connaisse, par exemple, pour connaître la vérité, pour connaître comment vivre. Je demande à mon ami humaniste, d'où tu viens, où tu vas? Quelle est l'origine de l'être humain? Quelle est sa destinée? Et l'homme humaniste se voit tout simplement comme le produit de l'évolution, sans aucune responsabilité envers Dieu, sans jugement éternel pour ses actes. Tout a commencé par chance et tout termine six pieds sous terre. C'est tout. On est venu par des molécules bing-bang, puis savoir tourner six pieds sous terre, puis c'est fini. Dieu n'est pas là, aucune responsabilité, aucun jugement. Le chrétien a une perspective de vie différente. Il croit, lui, qu'il est le fruit de la création, qu'un Dieu tout-puissant, qui l'aime, qui est souverain, le fait venir sur terre. Le chrétien se perçoit comme une créature du Dieu vivant, et qu'il est ici-bas pour le connaître, pour l'aimer, pour le servir. Et il croit qu'il va trouver son épanouissement dans la vie, ici-bas et pour l'éternité, à travers l'obéissance à ce Dieu souverain. Il croit, selon Romains 14, 12, que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous, on va être redevable devant Dieu, puis on va y rendre des comptes. Et il croit aussi que s'il marche avec Dieu, il va trouver de la joie dans son cœur. Dieu est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et les Écritures lui rappellent, « Fais de l'Éternel tes délices. » Et savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Il va te donner ce que ton cœur désire. Tu n'auras rien à envier de non-croyants si tu marches avec Dieu et tu fais de Dieu le délice de ton cœur. Je demande à mon ami, alors, sa notion de délivrance, de salut. Comment est-ce qu'on sort des problèmes? La vie est un voyage où il y a beaucoup de soucis. Comment tu t'en sors? Comment tu fais face à ça? Bien, l'homme naturel, en ne reconnaissant pas sa redevabilité envers Dieu, en ne reconnaissant pas son péché contre Dieu, eh bien, lui ne trouve pas le besoin essentiel de s'approcher de Dieu, le Fils de Dieu, s'approcher de Jésus pour son salut éternel. Le chrétien, lui, il a une autre conception. Le chrétien, lui, reconnaît qu'il est un pécheur, qu'il a besoin de salut. Il a besoin d'être sauvé et il ne peut pas se sauver lui-même. Il doit être sauvé sur la base de l'œuvre de Jésus sur la croix. J'ai eu la joie en début de semaine de partager ce simple message-là avec un jeune homme. Juste lui faire réaliser que le salaire du péché, aidez-moi, c'est la mort. C'est la séparation avec Dieu. Alors, être sauvé, c'est régler le problème du péché. C'est de régler le problème de la mort, de la séparation. Quelle joie je pouvais partager à cette personne-là qui avait un héritage très humaniste, rien, que dans le passé, bien, il y avait des agneaux qui versaient leur sang, qui mouraient pour des coupables. Le coupable mettait sa main sur l'agneau et confessait le péché. Puis le sacrificateur coupait le cou de l'agneau, puis il versait son sang. Puis on a été voir dans Lévitique, c'est le sang, c'est la vie qui fait l'expiation pour nos péchés. Il pouvait comprendre ça. Là, j'ai demandé de m'expliquer Jean 1, 29. Jean-Baptiste, il voit Jésus, puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce jeune homme-là, il a compris que c'était Jésus, cet agneau-là, qui pouvait enlever le péché du monde. Il est sorti avec une direction différente, de savoir qu'il y avait besoin d'être sauvé. et qu'il y avait un sauveur pour lui. Si par la repentance et la foi, il se détournait de son péché et se tournait vers Jésus. Ce message-là, vous le connaissez si vous êtes un enfant de Dieu. Ce message-là, le monde a besoin de l'entendre. On a besoin de le connaître, d'être capable de le partager. Vous connaissez Actes 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et Jésus disait à un homme religieux du nom de Nicodème, en Jean chapitre 3, verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. » La masse de la société humaniste tente constamment à inculquer sa philosophie de vie à la minorité qui est croyante. La masse humaniste cherche à nous assimiler, à nous conformer à sa vision de vie. Mais Dieu, dans ses Écritures, nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. » Quelle sorte de philosophie? Une philosophie qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde de vous faire pogner, de vous faire prendre, être une proie par les philosophies du monde, par la tromperie qui ne s'appuie pas sur Christ, mais qui s'appuie sur les traditions humaines, sur des principes élémentaires du monde. Oui, il y a une différence entre une philosophie chrétienne de la vie et la philosophie de vie, la vision du monde que l'on trouve à l'extérieur de nos portes. Et Dieu nous appelle, non pas à nous conformer, à prendre le moule du monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour connaître la volonté de Dieu et après ça, la vivre et être capable de la propager. Dieu voudrait que nous affirmions et nous affermissions notre philosophie de vie plutôt que nous accommodions, écrasons ce que nous croyons être le secret de la vie aujourd'hui et pour l'éternité. Quand on a une philosophie particulière de vie, ça se transmet à travers des valeurs que nous allons vivre dans notre foyer, envers nos enfants. Quelles sont des valeurs qui découlent de cette philosophie d'éducation? Cette philosophie de vie, quelles sont des valeurs fondamentales, je dirais, de l'éducation chrétienne, que nous allons vivre, que nous allons inculquer à ceux qui nous sont chers? J'en ai cité 7 rapidement. Comme valeur fondamentale, nous croyons à la réalité du Dieu vivant. Nous croyons que ça fait une différence, Dieu. Nous croyons que Dieu existe, qu'il est un être personnel, qu'il est un être souverain sur toute la terre, qu'il est un être qui nous aime et qu'il est un être auquel nous allons être et nous sommes redevables. Il existe et toute la vie est ouverte à sa présence et à son intervention. Alors quand la vie m'amène des inquiétudes, des soucis, quand je frappe un mur, c'est pas juste la bad luck, c'est pas juste les choses qui tournent mal puis on est incapable de réagir. Le croyant croit à la réalité du Dieu vivant, qu'il n'y a rien qui arrive sans le bon vouloir de Dieu, sans la permission de Dieu. Et même les difficultés, la Bible nous dit, peuvent être un tremplin pour s'approcher de Dieu et pour que Dieu nous amène encore plus près de lui et de manière plus épanouie encore. Toute la vie est ouverte à la présence et à l'intervention de Dieu. Une autre valeur que nous possédons, c'est que le Dieu invisible n'est pas loin, mais il s'est approché de nous puis il nous a parlé. Je suis capable aujourd'hui d'entendre la communication de ce Dieu invisible. De la même manière que je peux entendre un monsieur qui parle, je ne sais pas trop où, quand je tourne à 93,3, j'entends sa voix, je ne le vois pas, mais il se communique avec moi. La même manière, je peux communiquer avec Dieu. Dieu peut communiquer avec moi. Il s'est révélé et il nous a communiqué sa parole dans la Bible. Et à travers la Bible, il me communique une éthique de vie. Maintenant, mon radio est ouvert le matin. Peut-être que vous avez l'habitude d'ouvrir le radio chaque matin quand vous allez travailler. Puis vous entendez, je ne sais pas qui parle, à quel canal. Mais est-ce que vous avez pris l'habitude aussi d'ouvrir le canal de la parole de Dieu chaque matin pour entendre les nouvelles que Dieu a pour vous aujourd'hui, pour entendre les défis qu'il veut placer devant vous, pour entendre les promesses qu'il veut vous faire pour vous fortifier pendant les défis que vous allez avoir dans la journée. Une valeur chère aux croyants, c'est que son Dieu lui parle. Son Dieu est invisible, mais il lui parle. C'est notre responsabilité alors d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos Bibles pour lire, méditer, mémoriser la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne aussi comme valeur à posséder le respect de l'autorité. Nous avons dans les Écritures que Dieu est un Dieu d'ordre et que dans sa manière d'établir le monde, il a établi des autorités comme ses ministres à lui. Ses ministres à lui pour notre bien. Quand je vois la police passer, dans mon cœur, ça devrait dire « Hey, ça c'est un outil de Dieu pour mon bien. » Entendez-vous ça souvent? Surtout quand la lumière rouge allume en même temps qu'elle passe. Mais Dieu me dit « Je veux vivre, je veux que mon monde vive dans un monde ordonné. » Puis je me suis donné des outils, des instruments. La Bible les emploie des ministres. Ça, c'est des êtres religieux en plus. Pour établir l'ordre, pour que les gens puissent vivre dans le calme, dans la piété, qu'ils puissent honorer Dieu, qu'ils puissent être encouragés à faire le bien et découragés à faire le mal. Ça vient de Dieu. Et ça, c'est une valeur à posséder, le respect de nos autorités. On oubliait bien beaucoup, je pense, cette notion-là chez les croyants d'aujourd'hui. Une autre valeur à posséder, l'humilité personnelle. Réaliser que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, a son origine dans la grâce de Dieu. Dieu pourrait et aurait le droit de nous écraser à chaque fois que nous faisons le mal. Mais il agit à notre égard par grâce. Nous sommes complètement dépendants de la bienveillance et de la bonté de Dieu. Et ça m'appelle. Non pas à lever le nez, mais à marcher dans l'humilité avec Dieu, comme les uns envers les autres. Une autre valeur à privilégier, celle de la compassion. La compassion pour son prochain. Dieu dit que c'est lui qui est le centre de l'univers et qu'il nous a donné les êtres humains afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que la vie a une grande valeur. Et qu'on doit en prendre soin, dans la mienne comme dans celle des autres. Mon prochain doit avoir une grande valeur à mes yeux. Je dois être sensible aux autres, particulièrement aux infortunés, particulièrement à ceux qui ont des besoins essentiels. Parce que Dieu veut pourvoir à leurs besoins, et c'est souvent à travers les autres individus qu'il va prendre soin des infortunés. Une autre valeur à privilégier, celle du service à la communauté. Nous devons développer nos talents puis accomplir nos responsabilités pour servir notre prochain. On doit utiliser nos talents pour servir aussi notre société tout entière. On devrait faire une différence autour de nous. Servir. Parce qu'on croit qu'on a tous été équipés avec des dons différents, avec des talents différents, pas pour vivre en isolation, mais pour vivre en communion et s'entraider les uns les autres, veiller les uns les autres, se mettre au service les uns des autres. Une dernière, il y en aurait d'autres, mais une septième que j'ai placée. Une valeur importante. La communion avec Dieu. C'est une chose que d'avoir la Bible et de voir que Dieu me parle. C'est une autre chose de vivre constamment dans la communion avec ce Dieu qui me parle. Apprendre à connaître Dieu comme mon Père. Apprendre à connaître Jésus comme mon Rédempteur, apprendre à l'aimer, apprendre à le servir comme mon ami suprême, apprendre à vivre la vie en priant. Chaque jour, quand je travaille, quand il y a des bonnes choses, quand il y a des mauvaises choses, je suis connecté avec Dieu, puis je lui parle. Je le